Ce que j'ai pensé maintenant, c'est de regarder dans les 8 visions nocturnes dans le livre de Zacharie. Il y a eu 8 visions nocturnes, c'est ce qu'on va regarder. Puis peut-être ce soir, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu un survol des petits prophètes. Mais peut-être avant, on va lire dans Zacharie, on va lire les versets du chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit au verset 1. Le 8e mois de la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Cheba, la 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Puis là, il commence les visions nocturnes qui sont je regardais, je levais les yeux, je levais les yeux. On voit que chaque vision est précédée par ces mots-là. Il me fit voir, il dit, que vois-tu? Je levais de nouveau les yeux. Puis c'est toujours ce qui introduit les 8 visions nocturnes de Zacharie. C'est qu'il voit des choses. Le Seigneur lui fait voir des choses, puis on regardera qu'est-ce que ça veut dire ensuite durant notre étude. Fait qu'on va peut-être demander au Seigneur de nous aider dans cette étude ce soir. Seigneur, notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier que ta parole est tellement abondante. Il y a tellement de choses à comprendre, à apprendre pour pouvoir te connaître, Seigneur. Tu t'es révélé à nous dans ta parole, puis on te remercie pour ça. On te demande maintenant ton aide afin qu'on puisse utiliser ta parole d'une façon qui soit profitable. On te remercie pour ton esprit qui nous aide aussi. Et si tu as fait voir ces choses à tes prophètes comme Zacharie, on sait que tu veux nous les faire voir à nous aussi, Seigneur, puis on te remercie pour ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Donc, Zacharie fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Les petits prophètes, ce n'est pas parce qu'ils étaient petits, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas importants. Les petits prophètes, c'est parce que leur message était plus court. Quand on pense aux autres prophètes comme Jérémie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ben Daniel fait partie des petits prophètes, mais son message n'est pas aussi long. Mais les petits prophètes, c'est les prophètes de l'exil. L'exil, on pense quand le peuple d'Israël a été emmené en exil, avant et après qu'ils ont été emmenés en exil, ils ont été avertis de l'exil, qui était l'exil à Babylone. Le Seigneur leur a parlé, puis à travers les petits prophètes. Mais les petits prophètes, il y a un titre de livre qui concerne ça, c'est Connaissez-vous les petits prophètes? Puis quelqu'un avait dit, quand vous allez arriver dans la gloire, j'espère que vous allez les connaître, parce qu'on va les rencontrer dans la gloire, puis on espère qu'on va pouvoir les connaître. C'est sûr qu'on c'est un peu une partie de la Bible qui est négligée dans un sens, parce qu'on a toujours de la misère à retrouver les petits prophètes quand on nous dit de tourner comme à Joël, Sophonie, et ainsi de suite, Habacuc. On a de la misère à les trouver dans la Bible. Mais ils sont 12 petits prophètes, comme les 12 apôtres. Donc, c'est 12 petits prophètes. Puis, leur message, c'est vraiment un message d'amour, de l'amour de Dieu à un peuple désobéissant. Les prophètes, ils avertissaient toujours de la part de Dieu. Ils essayaient ils parlaient de la part de Dieu au peuple qui était désobéissant. Donc, c'est des messages d'amour de Dieu à son peuple désobéissant. Puis c'est des messages à Israël en temps de déclin. Le Seigneur avertissait, le Seigneur, le fait qu'il envoyait des prophètes quand le peuple s'éloignait, c'était pour montrer comment il voulait les ramener. Dieu voulait les tourner vers lui. Puis il aurait pu dire, OK, ben, vous voulez vous détourner, je vous laisse aller. Mais le Seigneur, au lieu de les laisser aller, il leur présentait des messages pour les ramener, pour leur parler, pour qu'ils puissent se tourner vers lui. Donc, dans les petits prophètes, on voit c'est des avertissements, des promesses de la gloire dans leur Messie, puis l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu leur rappelait qu'il avait fait des promesses à son peuple, Puis que aussi, on sait que la plus grande promesse, c'est de leur envoyer leur Messie. Puis il leur montre ces choses-là. Mais nous autres aussi, on est en temps de déclin présentement. C'est sûr qu'on, comme nous, on a un groupe, on se réunit le matin pour un temps, on cherche un temps de réveil. Un temps de réveil, c'est parce que il y a du déclin. On s'est endormi, puis on est aussi, comme le peuple d'Israël, dans ce temps-là, était en déclin. On voit qu'il s'éloignait constamment de Dieu à partir de David, de Salomon, puis les autres. Ouais, il y a eu des réveils dans le temps d'Israël, mais ça continuait toujours en déclinant de plus en plus jusqu'à temps qu'ils ont été emmenés en captivité à cause de leur désobéissance. Mais nous autres aussi, on est en temps de déclin. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses dont on se détourne, des choses de la parole de Dieu, des choses qui nous gardent près de Dieu. On commence à se dire, c'est pas si important que ça, puis on laisse tomber des choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais Dieu nous parle aussi, puis c'est pour ça que ces messages-là, des petits prophètes, peuvent nous aider aussi à nous réveiller, à nous ramener, à se tourner vers Dieu. Donc Dieu avait parlé à son peuple avant l'exil, puis ils n'ont pas écouté. Mais d'autres aussi, Dieu nous parle. Mais est-ce qu'on écoute quand Dieu parle? On voit que Zacharie le rappelle dans les versets 2 à 6 qu'on a lus dans le chapitre 1. Il dit, l'Éternel a été très irrité contre vos pères. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement? Cependant, mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères? Ils se sont retournés et ils ont dit, l'Éternel des armées nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Donc, c'est un message que Dieu adressait, comme il l'avait adressé à leur père, il leur adressait encore un message pour qu'ils se détournent de leur voie, pour se tourner vers le Seigneur. Francis Bayet, qui écrit un livre, Connaissez-vous les petits prophètes, justement, que j'avais mentionné au début, il écrit ceci, j'ai trouvé assez intéressant. Il dit, notre génération a besoin d'entendre le message des prophètes. Notre génération a besoin de prophètes, des hommes de Dieu qui n'apportent pas une nouvelle doctrine, ne fondent pas une nouvelle église, mais disent, revenez à Dieu et à sa parole. Rassemblez-vous autour de Jésus-Christ, au seul chef de l'Église. Donc, c'est ça j'ai trouvé ça intéressant, qu'est-ce qu'il disait. Puis, c'est pertinent pour aujourd'hui. C'est ça qu'on a besoin dans notre génération. On n'a pas besoin des nouvelles choses. On n'a pas besoin de fonder des nouvelles églises, mais on a besoin de revenir au chef. Puis, pourquoi il y a tant de divisions, comme Paul disait aux Corinthiens? Il y avait tellement de divisions dans l'Église, c'est pourquoi c'est une preuve qu'ils étaient charnels, qu'ils n'étaient pas spirituels. Parce que quand on se tourne vers le Seigneur, bien, on va se retrouver quand on se rassemble autour du Seigneur. Donc, on parle des 12 petits prophètes, puis on va regarder un petit peu qu'est-ce que leur nom, parce que dans la parole de Dieu, les noms ont beaucoup d'importance. Parce qu'il y a un message juste dans les noms des personnages. Puis on va voir aussi le thème de leur prophétie, puis à quel moment ils étaient. Donc, premièrement, Osée, hein, le premier petit prophète, le mot Osée veut dire l'Éternel sauve. C'est ça que ça veut dire, son nom, l'Éternel sauve. Puis on voit en rapport avec son message. C'était quoi le thème du livre d'Osée, du prophète Osée? C'est l'amour rédempteur. Donc, c'est l'amour de Dieu qui veut nous racheter. Puis c'est ça qui est son message. Puis Osée, lui, était au temps d'Ozias, de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias. Ça, c'est les rois à qui, dans le moment où il faisait sa prophétie. Ça, c'est pour Osée. Joël, lui, ça veut dire l'Éternel est Dieu. C'est ce que veut dire Joël, l'Éternel est Dieu. Puis Joël, son thème, c'est le jour de l'Éternel. C'est sûr qu'aujourd'hui aussi, on se moque de Dieu, on ne reconnaît pas qui Dieu est, puis qu'est-ce qu'il sont sa souveraineté sur sa création, on ne reconnaît pas ça. Mais Joël, lui, son nom veut dire l'Éternel est Dieu. Puis c'est ça qui va apporter, le jour de l'Éternel va revendiquer que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui est au-dessus de sa création. Puis il parle du jour de l'Éternel, il parle de jugement, puis aussi de bénédiction. On voit dans les prophètes que souvent, ils parlent de jugement, puis de châtiment, mais aussi, il y a toujours un message de bénédiction. Parce que Dieu veut bénir. Dieu est un Dieu qui veut nous bénir. Mais pour nous bénir, souvent, il faut qu'il nous châtie, puis il faut qu'il nous ramène à l'ordre pour nous pouvoir nous bénir. Puis Joël, lui, le temps où il a prophétisé, c'est un peu incertain. C'est peut-être avant l'exil, juste avant l'exil, il avertissait. Mais c'est incertain parce que c'est difficile, on nous dit, de dater son livre parce qu'il n'y a aucun roi israélite qui est mentionné dans sa prophétie, ni aucun roi des nations étrangères. Parce que, comme on voit, Zacharie, lui, il date son livre d'après ici, le 8e mois, le 2e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie. Donc, d'après les rois païens ou les rois d'Israël ou de Juda, ben, on peut se placer dans l'histoire, tandis que lui, Joël, il ne mentionne pas aucun qui sont. C'est Scofield, il dit, il est difficile de dater son livre car aucun roi israélite et aucune nation étrangère n'y sont mentionnées. Donc, on ne peut pas le situer par rapport à ces rois-là ou ces choses-là. Amos, qui est le troisième petit prophète, lui, il s'est porté un fardeau. C'est ça que son nom veut dire. Puis le mot dérive d'un terme qui signifie porter un fardeau. Puis le thème de son livre, c'est jugement sur le péché. C'est sûr que c'est un prophète qui portait le fardeau. Il y avait un jugement qui venait de Dieu et il portait ce fardeau-là envers le peuple. Lui était probablement au temps d'Ozias. Amos était prophétisé au temps d'Ozias, le roi, 200 ans après la mort de Salomon. Puis 100 ans après Élie, le prophète Élie. Lui, il était contemporain d'Osée et peut-être de Joël, parce qu'en Joël, on n'est pas sûr, mais parce que dans Amos, il y a une phrase qui est dans la fin de la prophétie de Joël. On voit qu'il y a une phrase qui est mentionnée aussi dans Amos. Et on va regarder dans Joël, au chapitre 3. Au verset 16, on voit que, je suis en train de tourner là, Amos, chapitre 1, Amos, chapitre 1 et 2, il dit, ici, il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Puis dans Joël, au chapitre 3, et au verset 16, il dit, de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Donc, ils reprennent la même expression et peut-être que ça donne un indice que ça pourrait être dans le même temps, qu'ils étaient contemporains. Abdias, lui, ça veut dire, son nom veut dire serviteur ou adorateur de l'Éternel. Puis son message, c'était, le thème de son message, c'était la condamnation d'Édom. Édom qui sont les descendants d'Ésaü. Ésaü qui était le frère de Jacob. Puis Édom, donc c'est la condamnation d'Édom. Puis lui, il était l'année suivant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar. C'est le temps où lui a prophétisé Abdias. Ensuite, on arrive au prophète Jonas. Le prophète Jonas, son nom veut dire colombe. Puis le thème de son message, c'est la miséricorde divine. On sait comment que Jonas. Il dit, il a prié à Dieu, je savais que tu étais un Dieu miséricordieux, lent à la colère, parce que lui, il ne voulait pas que Dieu soit miséricordieux. Il voulait que Dieu détruise Ninive. Son message était d'aller détruire Ninive. Mais lui-même a eu besoin de la miséricorde de Dieu parce que Dieu a fait toute une œuvre pour ramener Jonas, qui ne voulait pas aller porter le message de repentance, d'appeler le peuple de Ninive à la repentance. Mais lui-même a fallu qu'il se repente et qui profite de la miséricorde de Dieu. Ensuite de ça, il a pu être un prophète pour parler de la miséricorde de Dieu au peuple de Ninive. Lui, Jonas, il était contemporain d'Osée et d'Amos. Ensuite de ça, on a Michée. Michée, qui son nom veut dire « qui est semblable à l'Éternel ». Et lui, son thème, le thème de sa prophétie, c'est le jugement et le royaume. C'est que il y en a qui pensent qu'ils vont apporter le royaume en christianisant le monde, mais on sait que c'est le jugement qui va apporter le royaume. Le Seigneur va établir son royaume en jugeant le péché, puis en enlevant les scandales de son royaume, en enlevant le péché, ceux qui commettent le péché, il va les enlever dedans son royaume, puis c'est ça qui va purifier son royaume. On le voit dans quand David et Salomon, ils ont enlevé les méchants du royaume pour établir le royaume de Salomon, qui était un type du royaume du Seigneur Jésus-Christ, un royaume de paix et de prospérité. Mais il fallait qu'il enlève du royaume les éléments qui n'étaient pas conformes à la prospérité puis à la justice. Michée, lui, il était contemporain d'Ésaïe. Puis il a prophétisé au temps de Jotham, d'Achaz et Ézéchias. Nahum, le mot Nahum, son nom veut dire consolation, spécialement la consolation de Dieu. Puis lui, il parle du jugement de Ninive. Donc, il était sous le règne de Josias. Puis il est après Jonas, parce que c'est sûr que Jonas, lui, avait prophétisé à Ninive, puis ils se sont repentis. Mais plus tard, sous Nahum, mais là, Dieu les a jugés. Il a annoncé le jugement. Puis lui, Nahum, il était contemporain de Sophonie et de Jérémie. Donc, c'était après le règne, c'est après Jonas, puis il annonçait le jugement de Ninive. Habacuc, le mot Habacuc, son nom veut dire embrasser. Puis lui, son message, sa prophétie, c'est du doute à la foi. Donc, il est passé du doute à la foi. On sait quand il dit le juste, mon juste vivra par la foi. C'est un peu le thème d'Habacuc. Puis ça, c'était vers la fin du règne de Josias. Lui, il annonce l'invasion prochaine babylonienne. Donc, l'invasion de Babylone qui s'en vient. Sophonie, lui, veut dire l'Éternel cache ou l'Éternel protège. C'est ce que le mot séphonie ou le nom de séphonie veut dire. Puis lui, il parle le jour de l'Éternel. C'est sûr que dans le jour de l'Éternel, si le Seigneur ne protégeait pas, si le Seigneur ne cachait pas, bien, il n'y aurait personne qui survivrait. Mais le Seigneur, il a son reste selon l'élection de la grâce. Puis ceux qui vont se tourner vers lui, il va les protéger. On sait que l'Église, elle, va être enlevée avant la tribulation. Mais le peuple de Dieu, et ainsi que ceux qui vont se tourner vers lui, des nations dans la tribulation, eux, le Seigneur va les protéger parce qu'on sait qu'ils vont être persécutés par la bête. Ils vont être persécutés par Satan très fortement, mais le Seigneur va les préserver. Son thème à Sophonie, c'est le jour de l'Éternel. Il parle du jour de l'Éternel, puis lui, il était au règne de Josias, probablement avant le grand réveil, parce qu'on sait qu'il y a eu un réveil sous Josias, le roi Josias. Il s'est retourné vers la parole de Dieu, puis ils ont pris au sérieux la parole de Dieu, puis il y a eu un grand réveil sous Josias, mais c'était tout de suite après ça, on est tombé dans le déclin, puis il y a eu l'invasion babylonienne. Ils ont été emmenés en captivité. Agé, lui, son nom veut dire joyeux. Puis lui, il parle de la reconstruction du temple. Donc, il incite ceux qui étaient revenus de la captivité, il avait négligé la construction du temple. Puis lui, il les a mis au défi de construire le temple, de reconstruire le temple. Donc, lui est un des premiers prophètes de la période consécutive à la captivité babylonienne. Donc, c'était le retour. Puis, Agé était un prophète plus âgé, tandis que Zacharie était contemporain de Zacharie. Zacharie était un prophète plus jeune, mais Agé, on voit qu'on peut comparer entre Agé et Zacharie. Puis, on voit des similarités. On voit qu'ils étaient au même temps. Puis, quand Agé, lui, il leur parlait de la reconstruction du temple, Zacharie, lui, il va leur parler des deux événements du Messie. C'est ça qu'on arrive avec Zacharie. Le mot Zacharie veut dire l'Éternel se souvient. Et lui, il va parler des deux événements du Messie. Donc, ça avait été promis depuis le début, la venue du Messie. Puis là, Zacharie, il va leur rappeler ça. L'Éternel se souvient de ses promesses. Il va accomplir ses promesses envers son peuple. Puis lui, il est après le retour de l'exil, comme Agé. Il est après le retour de l'exil. De l'exil babylonienne, c'était les tribus du sud, Juda et Benjamin, qui sont revenus de l'exil, mais aussi il y avait des gens des autres tribus aussi qui étaient avec eux autres. Mais ensuite de ça, lui, c'est Zacharie qu'on va voir ensemble, mais après lui, le dernier petit prophète, c'est Malachie. Puis Malachie, son nom veut dire mon messager. Ça, c'est le procès du formalisme. Parce que le peuple était rendu, il faisait les choses, parce qu'il y avait le temple de l'Éternel. Il disait le temple de l'Éternel. C'est un peu comme si Dieu était obligé de leur donner la bénédiction parce qu'ils avaient le temple. Ils faisaient les choses juste par habitude, comme c'était un devoir de faire ces choses-là. Ils ne faisaient pas de cœur. Puis le Seigneur, il veut pas qu'on. Et comme il disait, leur parole, il m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est ça le formalisme. C'est l'honorer des lèvres, mais le cœur n'est pas impliqué dans ça. C'est juste, on le fait par obligation, puis ce n'est pas avec le cœur qu'on le fait. Mais Malachie, son nom veut dire, comme on a dit, mon messager. C'est le procès du formalisme, mais c'est le dernier des petits prophètes. C'est le dernier des prophètes même. Puis lui, il est après Zacharie. Donc c'est le dernier des prophètes parce qu'après lui, il est venu un jugement sur le peuple de Dieu, sur Israël, sur Juda. C'était 400 ans de silence. Donc, lui, il termine l'Ancien Testament. C'est pas, on sait que le livre des rois, des chroniques, tout ça, ça nous amène à la fin du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Mais dans les prophètes, lui, c'est le dernier prophète. Parce qu'après ça, il y a 400 ans de silence. Mais avant de donner ce jugement-là de 400 ans de silence, Dieu leur a annoncé la venue de Jean-Baptiste. Donc, le Jean-Baptiste est annoncé par Malachie. Puis, le Seigneur, il leur a averti. Vous savez, comme la grâce de Dieu, on voit là-dedans, avant de leur donner un jugement, parce qu'ils n'ont pas écouté les prophètes, justement, les prophètes leur ont parlé, puis comme leurs pères n'ont pas écouté le message des prophètes, ils ont eu les conséquences. Ils ont dit, il nous a traités selon nos voies, il nous a traités de la façon qu'on a, nous a traités comme il avait résolu de le faire, selon nos voies et nos actions. Ben, c'est ce qui arrive encore. Le Seigneur les a traités comme ça, mais le Seigneur, il n'oublie pas ses promesses, il n'oublie pas son amour qui est, je t'aime d'un amour éternel. Donc, c'est pourquoi je ne te retire pas ma bonté. Et le Seigneur va revenir, puis avant de leur donner ce jugement de 400 ans de silence, il leur parle, il leur annonce la venue de Jean le Baptiste qui, lui, après 400 ans de silence, va sortir pour donner un message au peuple. C'est un message de repentance encore. C'est un message de repentance pour préparer le peuple à la venue de leur roi, de leur Messie. Donc, maintenant, on va peut-être lire les versets 1 à 7. On va commencer au verset 7 du chapitre 1 de Zacharie. Puis on va regarder un petit peu ensemble la première vision nocturne de Zacharie. Au verset 7, il dit: Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shébat, la 12e année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bérékia, fils d'Iddo le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, donc on parle de vision nocturne. Ici, il dit: Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Et je dis: Qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit: Je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit: Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent: Nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit: Crie et dis: Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis: Ainsi parle l'Éternel des armées. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion. Il choisira encore Jérusalem. Donc, on voit ici que c'est un message de consolation que le Seigneur donne à travers ces visions nocturnes-là qui sont présentée à Zacharie qui va prophétiser ensuite au peuple. Donc, ça, c'est la première des visions nocturnes, mais il y en a huit. Je vais les énumérer maintenant. La première, c'est le cavalier parmi les myrtes. Ça, c'est évaluation de la situation de Jérusalem, de Sion, après la captivité. Après ça, le deuxième, c'est les quatre cornes et les quatre forgerons. Ça, c'est la revanche de son peuple, du peuple d'Israël. La troisième vision, c'est l'homme tenant le cordeau dans sa main. Ça, c'est le rassemblement de son peuple. Donc, le cordeau dans la main, le rassemblement de son peuple. Le quatrième, c'est Josué, le souverain sacrificateur, qui est revêtu. Il est habillé d'un vêtement sale, puis il a enlevé ses vêtements sales, il l'a revêtu d'habits de fête. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui revêt son peuple, parce que le souverain sacrificateur ici, c'est le représentant du peuple. Puis qu'est-ce que l'Éternel faisait avec le souverain sacrificateur? Ça représentait ce qu'il allait faire pour son peuple. Ensuite, on a la cinquième vision, c'est le chandelier d'or et les deux oliviers. Donc, ici, le chandelier d'or et les deux oliviers, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est un des messages d'espoir. La sixième vision nocturne qu'on verra, c'est le rouleau de manuscrits dans les airs. Donc, un rouleau de manuscrits qui passe dans les airs. Puis, ça, c'est le silence est brisé. Silence que l'Éternel parle maintenant à son peuple. La septième vision nocturne, c'est la femme assise au milieu de l'épha. Puis, ça, c'est l'enlèvement. L'épha, c'est un poids, une mesure de poids. Puis, c'est l'enlèvement de l'iniquité. L'iniquité va être enlevée de son peuple. Puis, la huitième vision, c'est les quatre chars. C'est maintenant, le Seigneur prend la plus haute place. C'est lui qui va être au milieu de son peuple. Donc, juste pour un peu faire un résumé de ça, la prophétie a toujours on a dit ça souvent, puis c'est un bon principe dans la prophétie. Quand on voit la prophétie, il y a toujours un accomplissement de près qui est moindre, avec un accomplissement plus complet dans un avenir éloigné. Donc, quand on regarde, quand le prophète il faisait des prophéties, il fallait que ce qu'il avait dit soit arrive. Sans ça, il était considéré comme un faux prophète. Donc, le Seigneur donnait un accomplissement près, mais avec en vue dans la prophétie un autre accomplissement plus grand, un accomplissement total dans un futur éloigné. Donc, cette prophétie-là ici, c'était au temps du retour de l'exil, dans la faiblesse. Ils sont revenus dans la faiblesse. Ils étaient en exil, puis le Seigneur les a rassemblés à Jérusalem. Il les a rassemblés, mais dans la faiblesse. Ils ont reconstruit le temple, mais le temple était moins glorieux. Mais quand même, cette prophétie-là s'est accomplie dans la faiblesse. Mais plus tard, elle parle aussi d'un plus grand accomplissement, là. Ça va être un retour dans la puissance et la gloire. Mais une chose qu'on voit toujours qui est attachée aux promesses de Dieu pour cette gloire-là, ben, c'est l'obéissance. Il fallait qu'il soit obéissant. C'est toujours le problème. C'est toujours à propos de l'obéissance que nous autres, on manque. Puis c'est certain que, comme on parle, il disait à David que si ses fils étaient obéissants, ben, il ne manquerait jamais d'un successeur sur son trône. Mais quand même, il avait fait avec David une alliance éternelle qui jamais il manquerait d'un successeur sur le trône de David. Donc, on voit que les fils de David ont été désobéissants. Mais ça s'accomplit. Salomon était obéissant au début. Après ça, il est devenu désobéissant. Mais on voit que pour que cette alliance-là avec David soit éternelle, il a fallu qu'il donne son fils, le Seigneur Jésus-Christ, comme descendant de David, comme celui qui serait obéissant éternellement. Donc, tout ça c'est sûr, là, la condition, c'est l'obéissance, mais le seul qui peut remplir parfaitement cette condition-là pour donner un royaume éternel, c'est le Seigneur Jésus qui est le plus grand fils de David. On va aller dans Zacharie 6 pour montrer un peu quand le Seigneur donne comme condition d'être obéissant. Dans le chapitre 6 et le verset 15, il dit: Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et oui, il y a toujours cette question-là d'obéissance. Dans le chapitre 3 de Zacharie, au verset 7, chapitre 3, verset 7, il dit, Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Donc c'est Josué, le souverain sacrificateur encore. Mais on va aller dans Jean maintenant. Gardez votre doigt dans Zacharie, mais on va aller dans Jean au chapitre 4. L'évangile de Jean au chapitre 4. Et on va regarder là le verset 34. Jean 4, verset 34. Il dit, Jésus leur dit, Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez-vous, c'est vraiment le seul qui a été obéissant complètement, c'est le Seigneur Jésus. Si on va dans 1 Samuel 15, 22, gardez toujours votre doigt dans Zacharie. 1 Samuel, chapitre 15 et le verset 22. C'est pour ça que quand on voit dans la parole de Dieu que Dieu donne des conditions comme ça, puis la bénédiction était toujours liée à l'obéissance. On sait que le salut, c'est par la foi. C'est à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais la bénédiction, bien, on la garde, on la détient ou on la reçoit dans l'obéissance. Donc, dans 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. 1 Samuel 15, au verset 22. On lit ici, Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ça se prouve, n'est-ce pas? Ça se prouve quand on voit quand il y a eu des temps de réveil, c'est parce qu'on a pris au sérieux la parole de Dieu. C'est parce qu'on a obéi à la parole de Dieu. Le déclin, c'est de dire, Ah, ben, ça, ce n'est pas des choses importantes. Puis on entend ça souvent aujourd'hui. On nous dit, ben, ça, ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. On n'est pas obligé d'obéir à ça. Mais vraiment, le cri du cœur qui est aimant, qui était pris d'amour pour son Seigneur, ce n'est pas de faire le moins possible. C'est de faire le plus possible. C'est de chercher. Un peu comme David, quand il a mentionné qu'il aurait aimé boire de l'eau de la citerne qui était à Bethléem, mais il y en a trois eux autres que pour eux autres, ils ont franchi les rangs des Philistins pour aller chercher de l'eau à David. Il aurait pu dire, ben là, David, on peut pas, là, c'est impossible, on va aller au risque de notre vie, ça n'a pas d'allure pour te donner un verre d'eau, là. Mais les autres, c'était le désir de David était un ordre, puis ils ont pas craint de franchir les rangs des Philistins pour aller chercher de l'eau à David. Puis David était tellement touché par ça qu'il n'a même pas voulu la boire, il l'a répandue devant l'Éternel. Donc, c'est pour ça qu'on voit que l'obéissance est importante. Même dans le Nouveau Testament, on voit l'obéissance qui est importante. Dans le Hébreu, au chapitre 5, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 7 jusqu'à 8, à la fin du verset 8. Il dit ici, Dieu fixe de nouveau, 5, OK, 7 à 8. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ça c'est le Seigneur Jésus, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et vous, comment le Seigneur Jésus, c'est lui qui était obéissant. Puis il nous dit qu'il était obéissant dans Philippiens, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, on a vraiment celui qui peut détenir la bénédiction de Dieu. Puis pour l'éternité, c'est celui qui a toujours été obéissant, puis qui va toujours être obéissant. Il se soumet complètement à la volonté de Dieu. Donc, il nous garantit vraiment la bénédiction éternelle parce que toutes les promesses de Dieu qui étaient en rapport avec l'obéissance, il n'y a pas un homme qui a pu rester obéissant ou être obéissant comme le Seigneur Jésus. Donc, on avait besoin de lui, le Seigneur Jésus, qui vienne être obéissant. Donc, avec le Messie, qui lui va apporter l'obéissance parfaite, lui, c'est le germe, pour garder la bénédiction éternelle. On sait qu'il y a toujours, ça s'est perdu. Dieu les a ramenés, ils ont construit le temple, tout ça, mais éventuellement, ils sont tombés dans un formalisme religieux. Puis, ils ont été finalement apporté. Les Romains les ont dominés. Puis on sait qu'il y a eu une grande dispersion en l'année 70. La diaspora, les Juifs ont été amenés partout sur la terre. Puis ils ont perdu leur pays qu'ils ont reçu en mai 1948. Mais ils sont encore dans la dispersion quand même, même s'ils ne sont pas tous revenus encore. Mais c'est vraiment le Messie qui, lui, il va ramener son peuple à cause de son obéissance. Lui, il va pouvoir garder la bénédiction éternelle. Donc, on voit ici dans Zacharie que le temple était en train d'être reconstruit, mais dans une gloire inférieure. On sait que ceux qui ont vu la reconstruction du temple, ils pleuraient parce qu'ils se souvenaient de la grandeur du temple qui avait été détruit, puis que là, il était reconstruit, mais c'était dans des temps fâcheux. Il n'était pas en plein pouvoir, il était dans les combats, tout ça, mais il était de gloire moindre que celle de Salomon. Quand on lit, quand le temple a été construit sous Salomon, il y avait de l'or, puis il y avait du sel, il y avait des poutres, il y avait des pierres taillées, il y avait beaucoup, il y avait de l'argent, il y avait de l'airain, il y avait tout ce qu'il fallait pour que cette maison-là soit vraiment glorieuse. Mais tout ça a été détruit, puis là, on l'a reconstruit, mais avec une gloire moindre. Mais on sait qu'un jour, le temple va être reconstruit avec une gloire encore plus grande que celle de Salomon. Mais la ville aussi était reconstruite, mais dans la faiblesse, la ville de Jérusalem. Puis on sait que cette ville-là est importante aux yeux de Dieu. Elle était foulée aux pieds par les nations, encore aujourd'hui, et elle est foulée aux pieds. Mais un jour, le Seigneur va revendiquer sa ville. C'est là qu'il va établir son trône. Puis il nous parle de Sion, hein, la ville du grand roi. Puis c'est le Seigneur, la ville va être reconstruite. Là, elle est reconstruite dans la faiblesse. Mais un jour, elle va être reconstruite d'une façon glorieuse. Regardez dans le chapitre 2 de Zacharie, au verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Donc, il dit, après cela viendra la gloire. Donc, il nous parle d'un temps qui va être glorieux dans le futur, dans la nouvelle Jérusalem. Puis, il y a des choses glorieuses, comme il dit dans les psaumes, des choses glorieuses ont été dites sur toi. C'est la cité de Dieu. C'est l'endroit où Dieu va placer son nom. Comme il l'avait placé à Jérusalem, dans le temple, il avait placé son nom. Puis la reine de Séba est venue voir ces choses-là. Elle a vu la grandeur de ce que Dieu avait fait. Mais vient un jour avec le Messie où cette ville va être encore plus glorieuse parce que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va être là. Il est venu dans l'humilité. On l'a crucifié en dehors des murs de Jérusalem. Un jour, il va rentrer, il va prendre possession de la ville, il va établir son trône et ça va être une ville très glorieuse. On voit que le souverain sacrificateur Josué, parce que lui, il représente le peuple, c'est lui qui est représentant du peuple devant Dieu. Puis on voit au chapitre 3 et au verset 4, il nous dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Donc, les fêtes, ça nous ramène, ça nous fait penser aux fêtes de l'Éternel qu'on a déjà vues ensemble. Les fêtes de l'Éternel, c'était un temps de réjouissance. C'était un temps d'abondance parce que ces fêtes-là étaient au temps de la récolte, au temps de la moisson, où Israël était dans l'abondance, puis ils se réjouissaient dans la présence. Ils se rassemblaient tous les membres 3 fois par année à Jérusalem, l'endroit que Dieu avait choisi pour les rassembler. Et quand ils se rassemblaient là, ils étaient dans la joie, ils étaient dans l'abondance, puis c'était un temps glorieux, c'était un temps de réjouissance. On sait que ces fêtes-là, mais la Pâque nous représente la rédemption. Puis la rédemption, c'est un sujet de joie complète. Après ça, il y avait la fête des pains sans levain qui commençait tout de suite avec la fête de la Pâque. Ça, c'est la provision. Dieu qui pourvoit pour son peuple. Il le rachète, mais aussi il pourvoit pour lui. Puis durant cette fête-là, il y avait la fête des prémices. La fête des prémices qui nous parle à nous autres de résurrection. Ça, c'est l'espérance, hein? La résurrection, c'est notre espérance. C'est l'espérance aussi d'Israël. Puis après ça, il y avait la Pentecôte qui était 50 jours après. Il y avait la Pentecôte ici qui représente, bien, ça représente l'Église et les Juifs et l'Église qui sont rassemblés pour former un seul corps, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y avait la fête des trompettes qui vient après que l'Église est enlevée. La fête des trompettes va se réaliser, c'est que Dieu va appeler son peuple. Le son de la trompette, c'était pour rassembler. Puis Dieu utilise cette fête-là pour rassembler son peuple. Puis ensuite, il y a le jour des expiations. Les jours des expiations, ben là, c'est la restauration. C'était la seule fête où il devait s'humilier. Il devait être dans la tristesse pour avoir une attitude de repentance devant Dieu, reconnaître leur tort devant Dieu. Mais c'est en vue de la restauration. Puis on sait que dans le jour des expiations, le vrai jour des expiations, quand Israël verront celui qu'ils ont percé, puis ils vont se repentir nationalement, ceux qui seront demeurés vivants durant la tribulation à la fin, ils vont recevoir celui qu'ils ont percé. Il dit, ils me verront celui qu'ils ont percé, ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ça, c'est la restauration. Puis ensuite de ça, la dernière fête, ben, c'est la fête des tabernacles qui nous parle de l'habitation. Dieu va habiter au milieu de son peuple, comme dans un sens, il habitait dans le tabernacle quand ils ont marché dans le désert, il habitait au milieu de son peuple. Puis dans le temple, ensuite, à Jérusalem, il habitait au milieu de son peuple. Mais dans la vraie fête des tabernacles, c'est le millénium où Dieu va habiter avec son peuple. On sait que, on voit dans Ézéchiel que la gloire de l'Éternel a laissé le temple, puis s'est éloignée, est montée sur le mont des Oliviers à l'est du temple, et puis s'est en allée. Puis le Seigneur est revenu lui-même dans son temple, le Seigneur Jésus, quand il est venu dans le temple à Jérusalem, on ne l'a pas reconnu. OK. Donc, ces choses-là, ces habits de fête-là que le souverain sacrificateur Josué va être revêtu, mais c'est la réjouissance dans l'œuvre de Dieu pour son peuple. On voyait le souverain sacrificateur était revêtu. C'était Josué qui était souverain sacrificateur à ce moment-là, mais aussi le roi. Mais le roi n'était pas nommé roi, c'était Zorobabel. Zorobabel qui était un descendant, de David, mais il ne s'est pas assis sur le trône de David à cause de Jéconia, qui était le dernier qui s'est assis sur le trône de David, parce qu'il disait qu'une malédiction était prononcée sur lui, qu'il n'y aurait pas un de ses fils qui s'assoirait sur le trône de David. Zorobabel, donc, était le gouverneur, mais c'était comme le roi, mais il n'était pas nommé roi sur le trône de David. Il était gouverneur de son peuple, Zorobabel. Puis lui, il a accompli sa tâche, mais dans la faiblesse, mais avec résultat quand même. Ils ont construit le temple de l'Éternel. Puis un jour, ici, on a deux oints. On a le souverain sacrificateur qui devait être oint, puis le roi aussi qui devait être oint. Donc, on a les deux oints ici. Puis il y a l'olivier, puis il y a le sacrificateur et le roi. Dans ces oliviers-là, il y a le sacrificateur et le roi. Eux, ils vont voir leur accomplissement. Les autres, ils étaient des préfigurations de celui qui serait le roi sacrificateur. Puis ça va être le Seigneur Jésus. Mais eux, ils vont avoir leur accomplissement dans un seul. Là, ils sont deux ici, mais un jour, ça va être dans un seul. Puis c'est la position de roi et de souverain sacrificateur, ou le pouvoir religieux avec le pouvoir civil ou politique. Eh bien, on a voulu s'approprier ces deux pouvoirs-là. Parce que celui qui s'approprie le pouvoir politique et le pouvoir religieux, bien, il a une grande autorité. Parce que le pouvoir religieux donne la dévotion, puis le pouvoir politique, bien, c'est la puissance pour garder les sujets dans l'obéissance. Mais quand ces sujets-là sont dévoués d'une façon religieuse, on dit il accomplit sa tâche d'une façon religieuse, c'est que c'est par le dévouement du cœur. Mais on sait que dans le passé, quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux, ou encore aujourd'hui, quand le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont dans une même personne, eh bien c'est très dur pour les sujets, parce que c'est à cause du péché de l'homme. Mais un jour, dans le Seigneur Jésus, ça va être le pouvoir parfait. Mais lui, comme il dit, on voit dans Zacharie au chapitre 6 et au verset 13, il dit, il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Donc, il parle du trône, ça nous parle du roi, de celui qui va être le roi. Mais aussi, il va être le sacrificateur sur son trône. Donc, il est roi sacrificateur. On a un type de ça dans l'Ancien Testament, c'est Melchisédek, qui était sacrificateur du Dieu très haut, mais il était aussi roi de justice, selon la signification de son nom. Donc, c'est ça qui, lui, était un type du Seigneur Jésus. Puis, dans le Seigneur Jésus, ces deux offices-là vont se rencontrer. Ils vont être une parfaite union, mais ça va être un règne de prospérité, un règne de paix, un règne merveilleux, parce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Donc, le but à atteindre dans ces visions-là, on voit dans le chapitre 6, les versets 9 à 15, ben c'est vraiment le couronnement du Messie, là. On voit ici, dans le verset 9 du chapitre 6, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Tu recevras les dons des captifs, Eldaï, Tobija et Jedeaja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes que tu mettras sur la tête de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, et il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Les couronnes seront pour Elam, Tobija et Jedeaja pour En, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel. Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si vous écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc, le but à atteindre dans ces prophéties-là de Zacharie, eh bien, c'était d'amener au couronnement, la conclusion de ces visions-là, c'est d'amener le couronnement du Messie comme souverain sacrificateur et comme roi. Il va porter les deux insignes. On sait que le messager dans les visions nocturnes qui s'adresse à Zacharie, c'est l'ange de l'Éternel. Il parle d'un ange et on voit que cet ange-là, c'est l'ange de l'Éternel. Et ça, l'ange de l'Éternel, c'est un sujet qui est très intéressant dans l'Ancien Testament. On appelle ça des christophanies ou des théophanies, où c'est des apparitions de Christ, le Fils de Dieu, comme un ange qui vient parler. Puis on sait qu'on le voit dans différents endroits, l'ange de l'Éternel, mais dans la vision nocturne de Zacharie, on le voit revenir dans chaque vision. C'est lui qui est le messager, qui donne le message à Zacharie et qui lui explique les visions, afin que Zacharie puisse les comprendre. C'est ça qui est le message. La prochaine fois, la semaine prochaine, Seigneur voulant, on va regarder la première vision, le cavalier qu'on a lu dans le chapitre 1, pendant la nuit, il leva les yeux, puis il vit, j'ai regardé pendant la nuit, voici un homme était monté sur un cheval. On va regarder ça la semaine prochaine. Ça, c'est l'évaluation de la situation. Fait qu'on va s'arrêter là pour cette semaine. Je vais vous donner la possibilité de pouvoir reprendre votre micro. Si jamais vous avez un problème de prendre votre micro, levez la main, faites-moi signe, puis je vais vous donner cette possibilité-là de pouvoir reprendre votre micro pour faire soit un commentaire
Ah.
ou poser une question. Ça fait que je m'arrête là, puis je vous laisse la parole.
Gérard,
Oui. Oui.
j'aimerais ça que tu me redises le petit prophète Abdias, c'est quoi la signification et le thème
OK, Abdias, c'est le
de son nom?
serviteur ou adorateur de l'Éternel. Puis son message, le sujet de son message, c'est la condamnation d'Édom, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü. Donc, les serviteurs ou adorateurs de l'Éternel, puis son message, c'était la condamnation d'Édom.
Des hommes, OK. Merci
Des,
beaucoup,
pas, pas
Thérapeute.
des hommes, pas des hommes, d'Édom. Édom qui est le
Ah,
descendant d'Ésaü.
Dédom, E-D-O-M.
C'est ça, ouais, les descendants
Merci
d'Ésaü.
beaucoup. Merci.
Bienvenue.
Question
Oui.
encore, Gérald. Le 400 ans de silence, c'est après ça qu'apparaissent les livres de Maccabée, je crois. Hein?
C'est durant ce temps-là, oui. C'est pour ça que les livres de Maccabée et ces livres-là qui ont été écrits dans ce temps-là sont pas dans le canon de l'Écriture. L'Église catholique, puis certains, ils appellent les livres deutérocanoniques, qui veut dire un deuxième canon d'Écriture. Mais ils n'ont jamais été cités dans le Nouveau Testament par le Seigneur, ou ils ne sont jamais cités dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ne font pas partie du canon. Ils ont été écrits durant le temps où Dieu était silencieux, les 400 ans de silence. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand ils ont fait traduire la Vulgate latine par Jérôme, ils ont demandé de traduire aussi ces livres-là. Mais Jérôme a dit, ces livres-là ne font pas partie du canon d'écriture. Mais l'Église les a inclus là-dedans pour essayer de justifier certaines de leur doctrine.
Il reste que c'est une bonne histoire quand même, hein? C'est de
Oui,
l'histoire.
c'est de l'histoire, oui. Comme on lit d'autres livres d'histoire, c'est pas mauvais de les lire, mais c'est pas des livres pour établir la doctrine.
Bon, merci, Gérald.
OK.
Oui, Gérald, j'aurais une question pour vous.
OK.
Les noms qui sont donnés pour la signification des noms pour les prophètes, ça a une signification spécifique. Mais est-ce que le nom en tant que tel leur était donné dès leur naissance ou est-ce que ce nom-là était attribué par la suite?
Ben, non, les noms étaient donnés dans la naissance, mais le Seigneur a permis ça quand même, qu'il y ait ces noms-là, parce que la parole de Dieu est comme ça. Même, on voit le roi David, t'sais, tous ces noms-là, ils ont des significations. Puis moi, je crois vraiment que quand on donne les noms, des noms, même à nos enfants, quand on leur donne les noms, ça a une signification, des noms. C'est qu'il faut faire attention quand on nomme nos enfants. Ça a une signification, puis on dirait que ça se répercute dans leur vie.
OK, c'est bon. Qu'est-ce que Gérald, ça veut dire ton nom?
Je suis pas sûr, peut-être que je l'ai su déjà, mais là, je m'en souviens pas.
Bon.
Je sais que Gabriel, il y en a qui ont le nom de Gabriel, c'est la force de Dieu, la puissance de Dieu. Mais les noms, on trouve. Mais c'est surtout dans les noms bibliques, on peut aller chercher la signification des noms, comme dans le Strong's, ou avec des livres comme ça qui nous donnent les. On sait que quand on a EL dans un nom, là, ça c'est l'Éternel. Et Jah, J, comme Joël, c'est Joël, c'est Joël. C'est Jo, Jéhovah, et Dieu l'Éternel. L'Éternel est Dieu.
Il y a peut-être une exception dans le Nouveau Testament avec Saul qui s'est appelé Paul par la suite.
Ouais, ben c'est ça. Saul, il veut dire un petit homme, mais Paul, il veut dire un petit homme. Mais Saul, attends un petit peu, j'essaie de me rappeler ce qui fait que Saul voulait dire. Parce qu'il y avait le roi Saül, c'est le même nom que le roi Saül. Mais c'est un Benjamite aussi, Saul de Tarse, c'est un Benjamite. Mais on voit qu'est-ce que l'Ancien Testament n'a pas pu faire de Saül le roi, ben, le Nouveau Testament a fait de Saul l'apôtre Paul. La grâce de Dieu, la loi puis la grâce, c'est différent. Nelson, est-ce que tu avais réussi à mettre ton micro? Un petit peu, je vais regarder. Oh, un petit peu, je vais aller voir pour. Je pense que tu avais pas réussi. Essaye-le, moi. Ça ne marche pas?
Ici. Oui,
OK, là, ça
correct.
marche.
Bon, j'aurais une question. Quelle différence qu'il y a dans le passage? On parle de l'Éternel, puis après ça parle l'Éternel des armées. Tu me dis pourquoi
La
la
signification.
différence entre les deux?
La différence. Ouais, souvent, c'est un terme qui revient souvent quand dans cet testament, on parle d'éternel des armées. Lord Sabaoth, c'est celui qui ça parle de, je crois que ça parle de sa puissance, là. Il vient avec les armées pour. Ouais.
Merci. On parlait tantôt du temple de Salomon.
Oui.
Ensuite, on a parlé du temple qui a été reconstruit en partie dans le temps d'Ézéchias, je crois, là.
Ben, c'est le temple, on appelle le temple de Zorobabel.
Oui, Zorobabel.
Oui,
Et le
Zorobabel.
temple, OK. Et par la suite, il y a eu le temple d'Hérode.
Oui, le temple d'Hérode, c'est une rénovation du temple.
OK.
Mais on parle du temple d'Hérode, parce qu'Hérode, c'était Hérode le Grand qui a quand même qui a fait comme une rénovation du temple.
Lui était plus prestigieux que Zorobabel.
Ouais, ben oui, c'est ça, ouais.
OK.
Mais c'est lui que le Seigneur est entré dans ce temple-là.
OK.
Quand il était sur la terre, mais il va en avoir un autre. Il y a le temple. Il y a le temple dans la grande tribulation. Il va avoir un temple parce que cet homme-là va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, la bête. Puis, mais après ça, il va avoir le temple du millénium aussi. Mais dans la nouvelle, dans l'ère éternelle, quand on va retomber dans l'éternité, ben, il y aura plus de temple parce que Dieu lui-même va être son temple. Et l'agneau.
Merci.
Si ça peut apporter un éclairage mieux, ou en tout cas un nouvel éclairage, mais pour la signification du nom, l'Éternel. Dans la
Exactement.
Bible Scofield, il y a un endroit à la fin de Malachie, dans le livre de Malachie, où on parle des noms de Dieu. Et puis, ils disent que ici, l'Éternel, c'était dans sa forme simple. Donc, il y a le fameux Yahweh, le tétragramme.
Oui.
Et puis, dans la forme composée, on voit l'Éternel des armées, ça veut dire Yahweh Sabaoth. Alors, c'est comme si on utilise un nom, le nom dans sa forme simple, puis après ça, c'est dans sa forme composée, probablement, comme tu disais, peut-être pour renforcer le nom de l'Éternel. C'est l'Éternel, mais c'est aussi l'Éternel Sabaoth, ça veut dire l'Éternel des armées.
Ça parle de rassemblement avec lui, là.
Oui, effectivement.
Avec ses armées. Le Seigneur Jésus il revient avec ses armées aussi.
C'est nous qui faisons partie de l'armée à ce moment-là.
Hein?
Quand Jésus revient, là,
Ouais.
avec son armée, nous sommes dans son armée. Sur des chevaux.
Oh. Lévi, ça y prend des chevaux.
Ah, ben
Oui.
oui,
Mais ça sera malheureusement des chevaux blancs. Ben, non, c'est faux de dire ça, parce que j'aime les chevaux noirs, mais ça sera des chevaux blancs.
On va te suivre. On va te suivre. On va être avec lui. Il va être comme un vainqueur. Il va être le vainqueur. On va être à ses côtés. On est arrivé à. À l'heure, ceux qui ont peut-être terminé par un mot de prière, ceux qui doivent partir pourront partir. Puis s'il y en a qui veulent continuer de discuter, on pourra continuer de discuter. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ce temps passé ensemble dans ta parole. On te remercie, Seigneur, que ta parole est toujours une parole de consolation. C'est sûr, Seigneur, que tu nous châties quand on en a besoin, mais même ton châtiment, Seigneur, est une grande bénédiction parce que ton châtiment a toujours en vue de nous ramener vers toi, de nous ramener vers la source de notre vie, où on trouve toute la bénédiction. Mais Seigneur, on veut te remercier parce que celui qui est obéissant pour l'éternité, c'est ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous l'as donné comme chef suprême à ton Église. Puis, Seigneur, on veut le reconnaître, le révérer, puis être dans la révérence devant lui pour chercher sa face. On te remercie en toutes choses. On veut être obéissant aussi, Seigneur, en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.